Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio.
Fred, j'ai enlevé mes souliers de marche, mes pantalons à zip et mon chapeau d'explorateur. Les vacances sont terminées et je me suis rhabillé en journaliste. Et tout au long de mon périple dans les Europes, je n'ai eu qu'une seule idée en tête.
Faire un podcast avec moi.
Oui, et un podcast sur les voitures commercialisées ailleurs dans le monde qu'on n'a pas au Canada, mais qui serait très, très cool d'avoir au Canada.
C'est vrai, j'en reviens pas qu'on n'a jamais fait de podcast sur ça, des voitures vendues ailleurs dans le monde qu'on aimerait voir sur nos routes. Y en a forcément un paquet. T'en as vu en Europe, j'en ai vu dans des voyages précédents aussi quand il n'y avait pas un virus qui menaçait de...
Y a-tu un virus?
Ben, il paraît, là.
Il paraît, OK.
Il paraît, il dit ça aux nouvelles.
Et je me dis que ce serait une belle opportunité pour Podcast de char de rayonner à l'international. Je pense qu'on est rendu là.
Est-ce qu'on va prendre un accent radio canadien pour que toute la francophonie nous écoute? Donc, les véhicules vendus ailleurs dans le monde qu'on aimerait voir au Québec, qu'on part...
On part!
Germain, tu reviens tout juste d'Europe. Je te laisserai donc commencer. Je suis persuadé que tu as vu un paquet de véhicules super cool que tu aimerais voir ici. Donc, à toi l'honneur. C'est quoi le véhicule là, qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment voir au Québec? Puis malheureusement, on n'a pas accès.
Ben malheureusement, c'est un véhicule auquel on n'a plus accès parce qu'on y a déjà eu accès.
Tu m'intrigues.
Et c'est la Volkswagen Golf de 8e génération. J'ai eu la chance d'en voir plusieurs déjà.
Oui?
Elles sont, j'irai pas jusqu'à dire nombreuses, mais j'en ai vu plusieurs quand même sur la route, des Volkswagen Golf régulières.
Parce que la GTI et la Golf R sont encore vendues au Canada, au Québec.
Oui, effectivement.
Mais pas la Golf.
La Golf régulière, là. C'est ça. Exactement. Donc elle, malheureusement, et on en a déjà parlé en long et en large. C'est une voiture qui a coûté relativement cher à développer, qui a beaucoup de technologies à bord. Et si on voulait atteindre un seuil de rentabilité avec cette voiture-là, voiture qui était populaire au Québec seulement, hein, parce que dans le reste de l'Amérique du Nord, c'était pas populaire. Aux États-Unis, ils vendent toujours beaucoup plus de Jetta que de Golf. Bref, donc, pour la rendre rentable, il aurait fallu la vendre quasiment le prix d'une GTI, ce qui n'avait...
C'est-à-dire début 30 000 $
Oui, exactement. Ce qui n'avait aucun bon sens, considérant que la Golf sortante, ben, elle, se vendait autour de 25 000 $
Donc là, pourquoi tu veux la revoir au Canada si son prix n'aurait pas de bon sens?
Ben, voilà. Donc, c'est peut-être avec un esprit
de nostalgie,
disons-le comme ça. Et il y a des versions électrifiées de la Golf régulière. Franchement, mm-hmm. La gamme est très étendue, très étoffée.
Mais et... je vais me faire l'avocat du diable.
Oui.
On a le meilleur. On a la crème de la crème avec la GTI et surtout la R. Est-ce qu'on peut vraiment s'ennuyer des petites Golf de base quand Vaux continue de nous donner les meilleurs Golf?
Oui, mais c'était le cœur quand même de Volkswagen, c'était...
Ça l'est encore avec la GTI.
Oui.
C'est ça le cœur.
Oui, mais un cœur moins...
C'est pas la Trendline.
Un cœur moins accessible. Puis ce qui était le fun avec Volkswagen, c'est qu'on n'avait pas besoin d'aller dans des versions sportives pour avoir une voiture, entre guillemets, cool. Là,
ça, c'est vrai. Même les versions de base étaient le fun à conduire.
Oui,
je suis persuadé
oui.
que c'est la même chose avec la...
Oui,
la Golf de 8e
génération.
Je la
trouve très belle en plus. Mm-hmm. Tu sais, quand on avait vu les photos, j'étais pas resté sur mon appétit, mais j'avais hâte de la voir en vrai. Voilà, c'est fait. Je la trouve très belle, peut-être un petit peu plus trapue, un petit peu plus allongée. Franchement, c'est une très belle voiture et malheureusement, il faudra sortir du pays à nouveau si on veut en voir d'autres.
Est-ce que
t'as
eu l'occasion de la conduire quand t'étais en France?
Et ça, c'est très particulier ça, Fred, parce que j'ai été une dizaine de jours dans ce pays et je n'ai pas conduit une seule fois. Ça faisait très longtemps. Je me rappelle pas la dernière fois où j'avais passé...
Vespa?
Rien. Rien. J'ai eu la chance d'expérimenter toutes sortes de moyens de transport comme l'avion, le tram.
Le vélo?
Non. L'avion, le tramway.
Le vélo m'aurait surpris quand même.
Oui. L'avion, le tramway, le TGV, l'autobus, la marche.
Mais pas la voiture.
Mais la voiture comme passager. mais pas comme conducteur. Et c'est, effectivement, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que je n'ai pas conduit pendant 10 jours d'affilée. Mais bon, comme on n'est pas dans un podcast de voyage, je
serait le fun pareil. Oui. Podcast de voyage, on se passe ça sur le site.
Oui.
On change de réalisateur, là, puis on se passe ça nous deux.
Oui, les pieds dans le sable.
Ils nous écoutent. Bon, mon tour, si tu le permets.
Oui, bien sûr, je te passe la rondelle.
La POC. Écoute, j'avais passé de Volkswagen à chez une marque qui n'est plus commercialisée au Canada depuis belle lurette, c'est Suzuki.
Oui!
Je sais pas si tu te souviens, Suzuki vendait quelques voitures correctes, cool.
Ben, des voitures qu'on a appris à apprécier sur le temps, là.
Oui, c'est comme le cas de la Hisashi.
Ou la SX4,
absolument,
même.
Qui était un peu avant-gardiste, la SX4, oui. Une espèce de.
Tu sais, aujourd'hui, ça serait
compact des. avant le temps, là. Dans le temps, c'était une voiture.
Oui, tu sais, aujourd'hui, ça serait quoi, un rival du Kona, par exemple, là?
Genre. Crème de la crème, Germain, chez Suzuki, c'est un modèle qu'on n'a jamais eu ici. Et qui s'appelle le Jimny. Pas le Jimmy, mais bien le Jimny.
Et pas le Jimny.
Non, pas le Jimny non plus. On parle bien du Jimny, qui est un espèce de... Si vous regardez
ça... Est-ce que je
pourrais l'appeler? Oui, absolument. J-I-M-N-I. Jimny.
Réussi.
Merci. J'ai passé mon cours d'orthographe. Le Jimny, en gros, là... C'est un mini Jeep Wrangler. C'est
ou vraiment... un mini Bronco.
Un vrai petit 4x4.
Avec le facteur cool, comme un Land Rover Defender à court cool. Empattement.
Empattement, deux portes, des couleurs super funky. Je me souviens l'avoir déjà vu en vrai.
Oui.
C'était au salon de l'auto de Détroit, je pense, le dernier qu'il y a eu en 2019. Qui était en liste pour le World Car of the Year.
Est-ce qu'il est vendu aux États-Unis?
Non, il n'a jamais été vendu aux États-Unis, mais il était quand même présent au salon. Puis je le trouvais... Quand tu le vois en vrai, puis tu vois les proportions, là, c'est vraiment... En fait, penser à un Jeep TJ dans le temps, là, c'est pas mal cette grosseur-là. Fait que le Wrangler, c'est beaucoup en
bourgeoisie.
Il a beaucoup grossi avec le temps. Tandis que le Jimny garde des dimensions super petites. Ça donne le goût d'aller comme dans le bois. C'est vraiment un petit véhicule super cool qui appelle à l'aventure, doté d'un petit moteur à 4 cylindres de 1.5 litres. Faut savoir que le Jimny, c'est un modèle qui existe depuis le début des années 70, donc c'est vraiment pas nouveau. Le modèle auquel je fais référence actuellement a été lancé en 2019, c'est la quatrième génération, puis vraiment ça, pour vrai, si, mettons, demain, Suzuki annonce qu'ils reviennent au Québec puis que le Jimny fait partie des modèles, je me mets sur la liste d'attente pour en acheter un, puis je te garantis qu'elle va être longue, la liste d'attente. Je suis persuadé qu'il y aurait une grosse demande pour un petit truck comme ça.
Et je suis surpris qu'il n'y ait pas d'importateur privé qui... Bon, évidemment, il y a des règles là, par rapport à l'âge du véhicule, mais je suis surpris qu'il n'y ait pas personne qui ait réussi à faire importer ces véhicules-là par une entourloupette quelconque.
Ça doit être assez compliqué. Là, quand on parle de véhicules neufs, tu sais, les normes en matière de sécurité, il y a probablement, je suis pas un expert là-dedans, mais il y a probablement des législations qui doivent être respectées puis qui doivent être difficiles à respecter avec ce véhicule-là. Parce que, écoute, moi, si c'était vendu ici, encore une fois, je te jure, là, je sauterais dessus.
Un véhicule familial par excellence.
Non,
hein,
pas super pratique.
Un
par
véhicule
exemple,
vert deux en plus. Un véhicule électrifié, hein?
Oui, parce que la couleur avec laquelle il avait été lancé, c'est une espèce de vert jaune. Là.
Et c'est tout ce qu'il y a de vert dans ce véhicule-là.
Ouais, mais tu sais, c'est un petit 4 cylindres d'à peine 1,5 litres, 102 chevaux de puissance. Pour les normes nord-américaines, probablement que si Suzuki amenait ce véhicule-là ici, ça sera pas le cas, là. Mais il mettrait un moteur de probablement 2 litres là-dedans, quelque chose d'un peu plus puissant.
J'en ai vu quelques-uns, cela dit.
En France,
absolument. Ce serait faux de dire que c'est courant comme véhicule, mais il y en a.
Moi, je me souviens d'un voyage que j'ai fait il y a quand même quelques années de ça. C'était au Costa Rica. Puis avec mon ami avec qui on était là-bas, on voulait louer un véhicule. Puis il y avait le Jimny, c'était le modèle d'ancienne génération à ce moment-là.
Mais
puis je le voulais, mais c'était moins cher de louer une tape de Yaris. Puis on était pauvres à l'époque.
C'était probablement
comme 10$ par jour.
On
a loué une foutue Yaris au lieu
Est-ce
du
que
Jimny.
Tu pourrais quitter l'endroit?
À cause de ça, mes souvenirs de voyage sont effacés à jamais. J'aurais tellement eu plus de fun à conduire le Jimny dans la brousse costaricaise.
Peut-être pourrais-tu consacrer un épisode complet à la Yaris que tu as conduite au Costa Rica. Ce serait vraiment intéressant.
Je pense que j'endormirais nos pauvres auditeurs. Ceci dit, j'ai une histoire quand même assez drôle avec la Yaris, mais ce sera pour une autre...
C'est le roi du tease.
Le roi du tease! Donc, Suzuki Jimny, pour moi, s'il y a un modèle d'outre-mer que j'aimerais voir chez nous, c'est bien celui-là.
En étant en France, qu'est-ce qu'on voit? On voit des voitures Peugeot. Bon, des VUS.
Je pensais que t'allais dire des poches de cigarettes puis des pains baguettes.
Non, ça me semble être des préjugés. mais parenthèse, effectivement, j'ai observé plus de fumeurs.
Ben oui, en Europe. Tellement.
Et ça m'avait frappé il y a 14 ans, mais ça m'a encore plus frappé maintenant parce que j'ai l'impression que la cigarette a tendance à être de plus en plus éliminé.
Chez nous, oui.
On rend la vie dure aux fumeurs de la cigarette.
En Europe, c'est moins pire un peu. Oui, la proportion de fumeurs est plus élevée.
Tu peux être en terrasse et fumer, là. Ouais. Tu sais, ici...
En terrasse,
du coup, ici, tu sais, reste loin, là. Ouais. Des fumeurs très jeunes. Enfin, bref, ce n'est pas un podcast sur le tabagisme. Mais oui, alors, qu'est-ce qu'on voit en France, du coup? Des Peugeot.
Hein, bien sûr.
Des berlines Peugeot, mais aussi des VUS Peugeot. Et là, les idées s'entrechoquent à la sortie de ma bouche, mais avec cette nouvelle alliance Stellantis, de laquelle on n'a pas vu quoi que ce soit.
Le temps, là. Ça fait même pas un an.
Ben, c'est long, là.
Ben là.
Toi, en un an, tu vas avoir donné naissance, là. Tu vas avoir donné la vie à un humain.
Regarde, mettons, ils sont pas capables
de vendre un char. Oh.
Regarde, mettons, Nissan puis Mitsubishi, ouais, là. Ça fait trois ans qu'ils ont annoncé une alliance, puis le Outlander, c'est le premier modèle qui est né de ça.
Oui,
puis t'as encore 2-3 ans.
T'as copié-collé d'un Rogue, là. Ça a pas dû être très dur à engineering.
Donne un peu de temps à Stellantis. Mais oui, ça se peut qu'on voit éventuellement des produits Peugeot vendu chez nous, sans qu'il y ait le logo Peugeot, peut-être.
Oui, ça m'a amené à jeter un œil à la gamme qui était offerte en France. Donc, évidemment, on a de très belles voitures familiales. C'est le cas de la 308, de la 508. Qui
ça, on plate leur nom, par exemple.
Oui, c'est certain. Les codes alphanumériques, ouais. Là, c'est un peu ennuyant. C'est pas toujours facile de les mémoriser et de les associer au bon modèle.
Ouais.
Mais oui, la 508, très belle berline, très, très belle familiale. Et en plus, leur gamme est électrifiée. Et ça, laisse-moi te dire que ça ne ferait pas de tort à Stellantis de ce côté-ci en Amérique du Nord parce que on est un peu à la traîne. Hein?
Parlant de Peugeot et de leur nom à coucher dehors, savais-tu que c'est grâce à
Comment
Peugeot...
Comment ça fait froid un peu là, pour coucher dehors?
Oui, absolument. Aller dans un abri, là, si vous couchez dehors, c'est pas une bonne idée. Savais-tu que c'est grâce à Peugeot si la Porsche 911 s'appelle Porsche 911?
Oui, parce qu'ils avaient la 901.
C'est ça, exact. Oui. Ils avaient la 901, puis Peugeot a leur envoyé une mise en demeure en disant que c'était leur... tactique marketing ou je sais pas comment
il appelle ça. D'avoir un zéro dans le milieu.
Exactement. Ouais. Un nom ou un chiffre à trois lettres avec un zéro dans le milieu.
Un chiffre à trois lettres.
Un numéro à trois lettres.
À trois
un numéro à trois chiffres. Voyons! Avec un zéro dans le milieu.
T'es obligé de laisser ça au montage. C'est trop parfait.
J'ai l'air d'un vieux sénile. Puis Porsche n'avait pas envie de se battre en cours, fait qu'ils ont juste changé de zéro pour un 1, puis c'est devenu la Porsche 900. Ils ont très bien fait.
Ça me rappelle aussi le conflit entre Ferrari et Ford avec le F-150, parce que Ferrari avait appelé sa Formule 1 F-150 pour un anniversaire quelconque, et là, Ford a levé la main et a dit « Non, ce nom nous appartient », comme s'il pouvait y avoir confusion entre une monoplace de Formule 1 et une camionnette américaine. Mais bon,
revenons à nos moutons. Donc, Peugeot, ça serait cool de voir quelques modèles Peugeot chez nous. Il y en a déjà eu, d'ailleurs. Hein? On a un collègue qui a une Peugeot.
On en a déjà eu, effectivement.
Ouais. Puis on en a plus. Bon.
Et je serais curieux de voir à quel point l'opinion générale des consommateurs canadiens, on s'en rappelle.
Ouais. Mais je suis pas sûr que l'opinion publique envers les voitures françaises est si bonne que ça.
Non, je suis pas sûr non plus. Et tu sais, quand Fiat était revenu, beaucoup se rappelaient de mauvaises aventures avec des Fiat, la mauvaise réputation. Même chose avec Alfa Romeo, même si ça faisait un moment que c'était terminé. Les souvenirs, à mon avis, sont restés, mais je suis curieux dans le cas de Peugeot.
Économie familiale.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
OK, mon tour, je t'amène, Germain, chez, c'est drôle, une marque américaine.
Ah bon?
Qui devrait donc présenter des véhicules en Amérique du Nord, donc chez nous. Et pourtant, il y a un modèle chez Ford qui, je pense, serait appelé à connaître un bon succès chez nous.
Oui.
C'est le Kuga.
Oui.
Qui est en quelque sorte un petit Escape.
Ouais, un petit Escape. Ouais.
C'est ça.
Un petit Escape.
Qui viendrait prendre la place que le Ford EcoSport
n'a jamais pris
parce que c'est un véhicule qui a été un immense échec commercial pour Ford. D'ailleurs, 2022 va être la dernière année de commercialisation du EcoSport en Amérique du Nord.
Et si ça ne tenait qu'à moi, ça serait arrêté bien avant.
Ben, il aurait jamais dû lancer ça. C'était un gros flop.
Non, je suis pas d'accord avec toi. C'était correct d'arriver avec ce modèle-là parce que le segment était encore très jeune à ce moment-là.
Il y avait des modèles.
Oui, mais t'avais le CX-3, t'avais le HR-V.
Exact.
Et là, Ford, a profité d'avoir avec ce modèle-là dans le catalogue.
Au Brésil, ils sont arrivés avec un produit trop cher, avec un moteur à 3 cylindres.
Oui, mais tu sais, t'arrives avec ça et t'aurais dû l'ajuster au fil du temps. Malheureusement, il s'est rien passé.
Déjà en 2018, quand ils l'ont lancé, il me semble que c'était ça, 2018, là, c'était bof.
C'était bof.
C'était pas aussi pire que maintenant. Là. C'est sûr que là, la game a changé, mais déjà à l'époque. Tandis que le Ford Kuga, à mon sens, a un look pas mal plus... Je te dirais...
Ça a vraiment l'air d'une auto.
Ben, ça ressemble à un Escape. Là. C'est un look qui passerait plus dans le paysage automobile nord-américain. On a une version hybride rechargeable qui utilise la même batterie que l'Escape hybride rechargeable qui commence enfin à arriver sur nos routes après 42 ans d'attente.
Oui.
Mais non, écoute, je pense que sans attirer les passions, là, c'est pas un véhicule comme, tu parlais tantôt de la Golf. Pis
non.
C'est pas quelque chose de passionnant, mais c'est un véhicule qui, je pense, pourrait permettre à Ford de percer enfin le marché des VUS sous-compact qu'on peine à percer depuis l'EcoSport.
Puis on a de la misère chez GM aussi, puis chez Stellantis aussi. Là, les Américains ont du mal.
C'est vrai.
Est-ce que c'est avec le Buick encore et le Trailblazer qu'on performe merveilleusement bien?
Trop cher.
Non, exactement.
Ouais. Peut-être le Kuga, qui sait?
Et tu sais, est-ce qu'on garderait le nom Kuga?
Moi, j'aime ça.
Kuga.
Pourquoi pas?
Je sais pas. Ça fait très européen.
Ben parce qu'il est vendu en Europe, vendu ici, je sais pas.
Sûr que les Américains seraient friands de ce nom-là.
Ben, ça me fait penser au Nissan Qashqai, qui s'appelle pas Qashqai aux États-Unis, parce que je pense qu'ils trouvaient que c'était trop bâtard
là-bas.
Est-ce
que tu veux une anecdote rapide? Parce que la mienne est très rapide.
C'était une fois un gars, il est rentré dans la police.
Non, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai commandé un véhicule de type Uber pour me déplacer et avec une application qui n'était pas Uber. Et là, on me dit, le véhicule qui va venir vous chercher, c'est un Nissan Rogue. Et il y a une petite photo d'un Nissan Rogue de précédente génération. Et là, je vois arriver devant l'adresse...
Un Qashqai.
Mais là, je me dis, c'est pas ça que j'ai commandé, mais la plaque est bonne. Et pour finalement réaliser que c'était un Rogue Sport, mais sur l'application, c'était bel et bien la photo d'un Rogue.
Il avait mal rentré, probablement. Parce que le Qashqai là-bas s'appelle Rogue Sport.
Oui, parce que Qashqai, on s'est dit aux États-Unis, on sera jamais capable de prononcer ça.
Et on s'est aussi dit, ce véhicule-là est beaucoup plus sportif qu'un Rogue.
Oui, et on avait fait la même chose chez Mitsubishi avec l'Outlander et l'Outlander Sport, qui était le RVR.
Le RVR, c'est vrai. On a le sport facile aux États-Unis. Ici aussi, on va te dire. Là.
Oui. Mais aux États-Unis, c'est encore un peu plus fort.
Un peu plus sport. À toi, Germain.
Mais tu parlais de Ford et en faisant un doublé chez le constructeur à l'Oval Bleu. Et souvent, on a en tête, quand on parle du marché européen, de petites voitures avec des moteurs diesel parce que l'essence est chère. Puis nous, en Amérique du Nord, on conduit quoi?
Des gros pick-up.
Mais il y a un pick-up qui est commercialisé en Europe qu'on n'a pas chez nous.
Oui.
Une version, en fait, d'un pick-up. Et c'est le Ranger Raptor.
Ben oui, c'est vrai.
On connaît très bien le F-150 Raptor, qui est la version performante et destinée à
aller dans le sable.
Oui, exactement. Donc,
c'est le F-150 le plus intense. Puis
le plus intense, c'est ça. Tu sais, ses prouesses hors route, tu sais, sont impressionnantes, effectivement. Mais on a une plus petite camionnette chez Ford, le Raptor.
Et, le Ranger.
Le Ranger, qui a connu un début difficile, je pense, là, avec la nouvelle génération. Bon, évidemment, les camionnettes intermédiaires sont extrêmement populaires en ce moment, donc on en profite un peu plus. Mais c'est pas nécessairement la mieux adaptée, là, au marché nord-américain.
Mais c'est une camionnette qui est... Ben, le Ranger, bon, le nom ici...
Oui, c'est un véhicule international.
Il date d'il y a longtemps, mais c'est ça, la camionnette, quand on l'a ramenée, C'est construit aux États-Unis, mais c'est grosso modo le Ranger qu'il y avait déjà sur un paquet de marchés,
oui,
à travers le monde.
Et il a été adapté à la va-vite, là.
Ouais.
Et je suis pas friand du moteur à quatre cylindres. Mais enfin, tout ça pour dire qu'en Europe, notamment, il a commercialisé une version Raptor. Je ne sais pas ce qu'attend Ford pour le vendre de notre côté de l'océan. C'est bien malheureux. Bon, la réponse, c'est qu'on attend le modèle de nouvelle génération, là.
Parce qu'il va bien finir par venir. Il y a tellement de rumeurs par rapport à un Ranger Raptor. Tout le temps.
Oui,
là,
puis
au final, ils vont en vendre 4, là.
Non, je suis pas d'accord. Regarde le
combien ça va coûter.
Regarde bien le Colorado ZR2, combien ils en vendent, là, tu sais.
Ouais.
C'est populaire, c'est intéressant, il y a un bel engouement. Les Tacoma TRD,
c'est cool, là.
Tout
c'est
le monde
pour
veut
l'image
ça.
Du camion, c'est cool.
Tu sais, non, pour moi, il y a un bon, comme on dit en chinois, business case avec cette version-là.
On dit mandarin.
Ah, mandarin, pardon. Et un bon business case avec ce véhicule-là, tu effleurais le sujet du prix. Effectivement, c'est un véhicule qui se vendrait très cher, mais bon, un Tacoma TRD, c'est pas donné non plus. Et tiens, en France, il est offert à partir de 50 000 euros, là.
Hey, c'est comme 80 000 $
ouais,
ça.
Mais on peut pas comparer ça comme ça.
Non, je sais,
mais oui,
quand
c'est,
même, là.
C'est très cher, c'est très très cher.
Aïe, aïe, aïe. Bon, un petit dernier pour moi, Germain, avant qu'on close cet épisode. Puis je pense que tu sais où je m'en vais, là. J'ai parlé
non,
du...
Non, j'ai aucune idée.
Non?
J'ai parlé ah, du... oui! Oui. C'est l'évolution du Westphalia.
Ben oui. Voilà. Écoute, j'ai parlé du Jimny tantôt, là. C'est sûr, je trouverais ça cool. Mais étant un grand fan de camping et de Westphalia...
C'est pas vrai, tu l'as vendu.
Ouais, mais c'est parce que... C'est ça, il y a un paquet de raisons à ça. Mais étant quand même un grand fan de Westphalia, même si j'en ai plus, je serais ravi de voir Volkswagen revenir avec son Vanagon, qui s'appelle plus Vanagon, là, qui s'appelle Caravelle, ou là, ils l'appellent Multivan à cette heure. Ils sont vraiment durs à suivre. Là.
Extrêmement difficile à suivre.
Mais surtout la version California de cette van-là, qui est... l'interprétation moderne de ce que les Westphalia étaient.
Un peu comme un Weekender à l'époque, là.
Ouais, mais plus que... Parce
plus
que Weekender,
ouais.
t'avais pas le petit four, puis la teinte d'eau, puis tout ça.
C'est correct.
Non, mais non, c'est un bel entre-deux, mais le Westphalia, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Volkswagen envoyait ses vannes à l'époque à une compagnie qui s'appelait Westphalia, qui faisait la conversion. Puis à un moment donné, il y a une partie de Westphalia qui a été achetée par Mercedes, fait que Volkswagen ne pouvait plus trop faire affaire avec eux. Puis de toute façon, ils se sont dit... Ça pogne, ça marche. Pourquoi on se crée pas l'expertise puis on fait pas la modification de ces vannes-là en camping-car chez nous à l'interne? Fait que c'est ça qui a été fait. Fait que maintenant, c'est vraiment Volkswagen qui fait cette conversion-là, qui est encore très similaire à celle des vieux Volkswagen. Quand tu regardes ça, la disposition des trucs a évidemment été améliorée puis modifiée avec le temps.
On a rajouté des prises USB.
Entre autres, le toit qui s'ouvre, c'est plus manuel. Il y a un petit piton maintenant.
Ah,
fait
okay.
que n'importe qui peut le faire. Parce que quand j'ai essayé de vendre mon West, il y a des gens qui étaient très... je sais pas, le seul mot qui me vient
refroidi.
À l'esprit, c'est coq-bloqué. Ouais, refroidi, c'est bon ça. C'est mieux que coq-bloqué. Il y a des gens qui étaient refroidis en voyant qu'il fallait le faire de façon manuelle.
Ben
puis que des fois, c'était un peu lourd.
T'achètes un Volkswagen de 30 ans.
Man, la jeune génération.
Ah! On a plus les jeunes qu'on avait.
Fait que maintenant, ben, c'est un piton, mais c'est ça. Il existe encore une van qu'on peut appeler la Westphalia moderne, qui est vendue notamment en France, qui s'appelle la Volkswagen California. Veux-tu savoir combien ça coûte, Germain, en Europe?
Ben, les dernières versions de l'Eurovan qu'on avait au Canada se vendaient une vraie fortune, et c'est pour ça que c'était plus intéressant. Là.
Ça commence à environ 52 000 euros en Europe. Fait que,
voilà.
Pas donné. Puis ça, c'est avant les taxes.
C'est pas TTC, toute charge comprise?
C'est acheté. En TTC, c'est, j'ai le site devant moi, c'est 62 206 euros.
Voilà, toute taxe.
Je me demandais, ça voulait dire quoi, TTC, c'est
ça? Toute taxe comprise.
Ils sont gentils de nous donner les taxes comme ça.
Comme au restaurant, pour boire, taxe inclus, tout.
Ça, en tout cas, ça, c'est cool.
On se part un podcast de consommation, toi et moi. Allez.
Ça fait le tour? Ben non, ça fait pas le tour. Il y en a plein d'autres modèles qu'on aimerait voir.
Ouais.
Il y en a d'autres qu'on aimerait pas voir, mais qui sont vendus chez nous.
Comme?
Ben, ça pourrait faire un autre podcast super intéressant. Le Ford EcoSport.
Oui, voilà.
Mais on tape sur le clou aujourd'hui.
Oui, mais ça achève.
Fait que qui sait, Germain, peut-être que les grands bons de l'automobile écoutent podcast de char et qu'ils se fieront à nos recommandations pour importer certains modèles dans un avenir rapproché.
Décroise pas tes doigts tout de suite.
T'as vu qu'il était croisé, hein?
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
Du coup, c'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
Pour poursuivre la discussion, n'oubliez pas de suivre le Guide de l'auto sur les réseaux sociaux. C'était une production
Cube Radio.